Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce dernier dimanche de l'année, je nous invite à une petite méditation extraite du livre de l'Ecclésiaste. On lira l'Ecclésiaste chapitre 7, versets 1 à 14. Ensuite, la fin du livre de l'Ecclésiaste et on lira aussi une partie de l'épître de Paul aux Galates. Donc, Ecclésiaste chapitre 7, versets 1 à 14, le texte nous dit ceci. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de la joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés, car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. L'Ecclésiaste nous conduit dans son livre à une réflexion de la vie de l'homme sous le soleil. Et vous connaissez cette expression qui revient plusieurs fois dans son livre, c'est vanité. Vanité des vanités, tout sous le soleil n'est que vanité. Et là, il poursuit sa réflexion en disant, mais dans cette vie ici-bas pleine de vanité, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'homme? Et dans ces versets, il dit à chaque fois, mieux vaut, mieux vaut, mieux vaut. Mais la conclusion quand même de sa réflexion, c'est que, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Sache que Dieu a fait l'un comme l'autre. C'est-à-dire le bonheur comme le malheur, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Dans sa méditation, dans sa réflexion, l'Ecclésiaste reconnaît que l'homme ne connaît pas son avenir. L'homme ne connaît pas son lendemain. Oui, c'est Dieu qui connaît la fin de toutes choses. C'est Dieu qui connaît l'aboutissement de toutes choses. Et Dieu fait ce qu'il veut, des temps de bonheur, de malheur. Il fait tout ça. Lui, il en connaît le but. Mais toi, tu ne le sais pas. Et comment vivre sur cette terre en sachant que tu ne connais pas ton lendemain? Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais même pas si tu verras 2020. Et l'Ecclésiaste de nous donner des conseils de sagesse. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait toutes choses. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? C'est-à-dire, qui peut changer ce que Dieu a établi? L'Ecclésiaste nous invite à vivre avec sagesse. Cette vie sous le soleil, ne sachant pas ce qui pourrait arriver demain, doit être vécue avec sagesse. Et cette sagesse, elle vaut mieux même que l'argent. Elle est aussi précieuse qu'un héritage. À l'ombre de cette sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. On a parlé des assurances, des sécurités. L'argent pour ce monde est souvent une source de sécurité. Je suis à l'abri, j'ai bien mis de côté. L'Ecclésiaste nous dit que la vraie sagesse est aussi un puissant abri. Et l'Ecclésiaste de nous donner des conseils pratiques pour savoir, mais dans la vie de tous les jours, ici-bas, sous le soleil, comment vivre avec sagesse. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est un ensemble de recommandations, de conseils. Il dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Mais quand même, c'est quand même plus sympa d'aller dans une maison de fête. Pourquoi dit-il ça? Pourquoi c'est pas ça? Ça paraît sombre comme ça, pessimiste, négatif. Eh bien, il justifie. Parce que là est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. C'est-à-dire que c'est dans la maison de deuil que tu te poses des questions existentielles. Que tu réfléchis et tu prends la chose à cœur et tu considères ta propre fin qui un jour viendra à coup sûr. Mieux vaut le chagrin que le rire. Là aussi on s'est dit, mais dis donc, moi je préfère quand même rigoler que d'avoir la tête. Mais oui, mais parce qu'il dit, mais avec un visage triste, le cœur peut être content. D'ailleurs, le cœur des sages est dans la maison de deuil, dans la maison de chagrin. Et le cœur des insensés dans la maison de joie. Pourquoi les sages sont dans la maison de deuil et les insensés dans la maison de joie? Parce que même dans le chagrin, même dans le malheur, même dans la tristesse, le sage réjouit son cœur. Qu'est-ce qui réjouit son cœur malgré son visage triste? C'est qu'il en tire des leçons. Des leçons pour la vie. Il réfléchit. Il médite. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Des chants qui crépitent comme le bruit des épines sous la chaudière. Là encore, c'est une vanité. La sagesse consiste à accepter la réprimande des sages, le reproche, qui certes, d'emblée, ne fait pas plaisir à recevoir. Quand on reçoit une réprimande, ça ne fait pas d'emblée plaisir. Mais quand on y réfléchit et qu'on en tire une bonne leçon, c'est là une source de sagesse. Parce qu'on corrige son comportement, on corrige sa vie. Et on en ressort grandi, amélioré. Aussi, le sage préfère les réprimandes que les compliments qui sont comme des bruits, des épines sous une chaudière. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Un esprit qui se précipite à avoir toujours des choses qui donnent des résultats immédiats. Non! Le sage préfère agir avec patience, humilité. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. quelqu'un qui est impatient, qui s'irrite, que les choses ne se passent pas comme il voudrait, les choses n'avancent pas au rythme qu'il voudrait, l'année finie et je n'ai pas atteint mes objectifs. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Le sage ne s'irrite pas, le sage prend patience. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne dis pas d'où viennent les jours passés, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. C'est-à-dire une nostalgie. À tout temps se dire, mais avant c'était mieux, avant c'était mieux. Mais une nostalgie qui rend amère. Une nostalgie qui crée de l'amertume, qui crée de l'aigreur. Non, dit-il, ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La vraie sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus. À l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Et l'auteur de nous dire, regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Dieu a sa part, et l'homme ici-bas sous le soleil a sa part. Ta part ne consiste pas à dire, mais pourquoi Dieu a fait comme ça? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait autant de morts? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait autant de catastrophes? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est ce qu'on entend souvent dans la bouche des non-croyants. C'est moi seul ou c'est les choses qu'on entend souvent? Ce procès de Dieu, pourquoi Dieu fait comme si? S'il existe, pourquoi il permet cela? La sagesse biblique ne réfléchit point comme ça. Dieu a fait toutes choses, bonheur comme malheur, ça c'est sa part. Lui, il connaît l'aboutissement de toutes choses. Ce qu'il nous demande, c'est un esprit de patience, un esprit de confiance, un esprit d'humilité. Au jour du bonheur, profites-en. Ne sois pas non plus toujours là à dire, mais moi, je ne veux qu'être triste. Le bon chrétien doit être toujours triste. Au jour du bonheur, profite du bonheur que Dieu te donne. Amen. Au jour du malheur, ne t'aigris pas, mais réfléchis. Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre par ce qu'il me donne de voir et de vivre? La sagesse biblique consiste à se mettre à l'abri de Dieu. Si cette sagesse est comme une forteresse, comme un trésor, comme une richesse, c'est parce qu'elle nous conduit à nous confier en Dieu. Et l'auteur, à la fin de son livre, à la fin de toute sa méditation, en conclusion de tout le livre de l'Ecclésiaste, il dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Point final. C'est la fin du livre de l'Ecclésiaste. Quand il a fini toute sa réflexion, il conseille à ses lecteurs, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là la part de l'homme. Parce que Dieu seul connaît la fin et l'aboutissement de toute vie. C'est lui qui amènera toute œuvre un jour en jugement. C'est lui qui va peser qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On peut faire le bilan de sa vie, mais celui qui va en faire le vrai bilan, c'est Dieu. C'est lui qui, au jour du jugement, pèsera vraiment ce qu'a réellement pesé notre vie. Et la fin de l'année est une période propice à la réflexion. Période propice à la réflexion. Oui, la Bible de nous dire que c'est vrai, Dieu amènera toutes choses en jugement. Et au jour de ce jugement, tout homme, normalement, sera déclaré coupable. Parce que nul homme de lui-même pourra mener une vie avec cette sagesse parfaite que nous décrit l'Ecclésiaste. Ce jugement de Dieu conduira de manière inexorable à la condamnation, puisque nous ne sommes pas en mesure nous-mêmes d'avoir cette pleine confiance que Dieu attend, de mener cette vie agréable à Dieu. Nous aussi, des fois, nous sommes pris par le découragement, par l'irritation, par l'impatience. Mais Dieu soit loué de ce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Afin que, nous dit Jean 3,16, quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse pas au jour du jugement, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. J'ai déjà donné cette illustration ici même. C'est comme si deux pays étaient en guerre. Que tu le veuilles ou pas, quand tu appartiens à l'un de ces pays, tu es de fait en guerre contre tous les autres membres du pays en guerre. C'est-à-dire que si Macron, bien sûr, je ne le souhaite pas, déclarait la guerre à l'Allemagne, tous les Français se retrouveraient de fait en guerre contre tous les Allemands. Et du coup, tous les Français seraient de fait les ennemis de tous les Allemands. Vous voyez? C'est bien ça, deux États en guerre. Eh bien, je peux utiliser cette même analogie. Nous sommes ici-bas sur le soleil. Ici-bas sur le soleil, comme dit l'Ecclésiaste. Nous sommes en guerre contre Dieu. Tous ont péché, nous dit l'apôtre Paul. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais quand j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est comme si je changeais de nationalité. Ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Et je deviens un citoyen du royaume, fils adoptif de Dieu. Je ne suis plus un Français en guerre avec l'Allemagne, mais je deviens un Allemand, un citoyen allemand. C'est la même analogie. Je deviens un citoyen du royaume de Dieu. C'est un changement radical de mon statut. Et cette œuvre, je la dois à Jésus, qui a déchiré l'ordre qui me condamnait, qui l'a cloué à la croix, et qui nous donne d'attendre ce jour avec l'assurance dont a parlé notre sœur Sabrina. Parce que Dieu nous fait grâce. Je ne sais pas ce qui m'arrivera demain. Je ne sais pas même si je verrai 2020. Mais je sais une chose, au jour du jugement de mon Dieu, il me dira, entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Pas parce que je vais mener une vie si parfaite, mais parce que j'aurai mis ma confiance en celui seul qui nous garantit le salut. L'Ecclésiaste nous dit que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. J'aimerais retrouver le verset, je crois que c'est le verset 7 ou 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a peut-être des exemples où on s'est dit, oui, mais moi quand même, j'aime bien les commencements. J'aime bien commencer les vacances. Il y a bien des choses qu'on aime bien commencer. Mais la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, frères et sœurs. Et c'est évident. Pourquoi? Parce que la fin de la chose montre vraiment son aboutissement. La fin de la chose montre vraiment ce que la chose a donné comme résultat, qui est bien ou mal. C'est pas en milieu de la chose que tu peux vraiment juger, voyez. Comment est-ce que tu veux finir ta vie? La Bible nous donne des exemples éloquents, notamment dans les livres des rois et les livres des chroniques. On a par exemple l'exemple du roi Ozias, un roi qui a bien commencé et qui s'est pris d'orgueil au point de vouloir venir dans le temple offrir un sacrifice. Mais ça, c'est interdit. C'est que les sacrificateurs. Et quand il s'est fait reprendre par les sacrificateurs, il n'a pas écouté. Il s'est enflammé, lui qui avait si bien vécu son règne jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Tout de suite, peut-être vous connaissez cette histoire, 2 Chroniques chapitre 26, il a été pris de lèpre. Il avait bien commencé son règne. Il a mal fini. Que dire du roi Joas, devenu roi, je crois, à 7 ans, qui a été pris sous la coupole du sacrificateur Jéhojada, qui a bien régné pendant tellement d'années. Et tout d'un coup, Jéhojada est mort. Et là, la vie de Joas a changé. Il a basculé dans le mal. Au point de faire quoi? De faire tuer le fils même de Jéhojada, qu'il avait formé depuis tout petit. Probablement qu'il avait grandi avec ce fils. Joas a bien commencé, mais il a mal terminé. Salomon, qui avait préféré la sagesse à la richesse, quel exemple! Sa fin est mitigée à cause des femmes, à cause de l'idolâtrie. Le peuple d'Israël, qui avait vécu des grands miracles, sorti du désert, traversé de la mer Rouge, éclatant, waouh! Avec les louanges, on en parlait au groupe de quartier, avec Myriam qui chante. Faut lire Exode chapitre 15 pour voir la joie, la fête, la défaite de l'Égypte. Mais au final, parmi les hommes adultes qui ont traversé cette mer Rouge, qui ont vu les miracles de Dieu, combien sont entrés dans la terre promise parmi les hommes adultes? Que deux, Josué et Caleb. Même le brave Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. La fin d'une chose, à coup sûr, elle vaut mieux que son commencement, parce que c'est là que nous pouvons juger du résultat, de l'aboutissement de cette œuvre. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, nous dit ceci: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et l'apôtre de nous donner ce conseil: mais ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Quel lien je fais entre ce texte et le texte que nous lisons? Le lien que je fais, c'est le fait que nous sommes invités à semer. Celui qui sème par la chair moissonnera la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je l'ai dit, je le redis, nous ne savons pas quelle sera notre fin sous le soleil. Nous ne savons pas quand sera notre fin sous le soleil. Mais en celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ, il sait quel sera le but final de sa vie. Celui-là qui met sa foi en Jésus-Christ marche par l'Esprit de Jésus-Christ. Il marche ici-bas comme un citoyen du royaume. Et cela doit se voir. C'est ce que l'apôtre Paul dit en Galates chapitre 5, par le fruit de l'Esprit. C'est pour ça qu'il commence, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas une histoire de faire semblant, c'est une histoire de marcher chaque jour véritablement avec Jésus-Christ. Et cette marche, c'est la semence pour l'Esprit. Elle aboutira à coup sûr à la vie éternelle. C'est une récolte qui est certaine. Parce que la semence est bonne. C'est Christ lui-même, comme une graine, qui est mort, qui est ressuscité, et qui fera de nous sa semence pour l'éternité. Mais pour celui qui n'aura pas mis sa confiance en Jésus-Christ, qui aura mis sa confiance en toutes choses, sauf en Christ, il aura moissonné de la chair la corruption et la faim. Aussi l'apôtre Paul, de la part de Dieu, de nous donner ce conseil. C'est quoi semer par l'Esprit, semer pour l'Esprit, chaque jour? Ne nous lassons pas de faire le bien, selon la loi de Christ. Ne nous relâchons pas, en tenant ferme dans la foi, pendant que nous en avons encore l'occasion, pratiquons le bien, envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Vous connaissez ces deux commandements. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai.
Amen.
Amen. C'est ce qu'il attend que nous pratiquions ici, sous le soleil, en attendant le jour où il viendra pour signer la fin. Et ce qu'il attend de nous, si nous sommes vraiment ses disciples, c'est que nous pratiquions le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et que nous pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Il y a plusieurs textes comme ça, je ne vais pas être trop long, où il nous est dit, pratiquez le bien, faites le bien aux autres. Et surtout envers les frères en la foi. Pourquoi cette insistance? Il faut bien comprendre. La vie que nous menons ici-bas, sous le soleil, le travail, la voiture, la maison, les vêtements, les bijoux, tout ce que... Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que nous allons emporter d'ici-bas, le jour où on sera avec notre Seigneur? Qu'est-ce qui va rester? Rien de tout cela, n'est-ce pas? Mais quelque chose va rester quand même. Le bien que nous aurons fait, surtout envers les frères dans la foi, nous le moissonnerons. Comment est-ce que nous le moissonnerons? Nous le moissonnerons parce que nous les retrouverons là, à côté de Christ. Et ce jour-là, nous verrons. Je pourrais dire, merci Ghislaine, tu as prié pour moi. Aujourd'hui, je suis là auprès du Seigneur et Ghislaine pourra s'en réjouir pour l'éternité. Elle moissonnera ce qu'elle aura semé. Je pourrais dire merci Simon, merci pour le conseil que tu m'as donné et tu te réjouiras de cela. Tu moissonneras ce que tu auras semé. Je pourrais dire merci à l'Église qui m'a corrigé les fois où je m'écartais de la bonne doctrine de Christ. Vous moissonnerez ce que vous aurez semé. Aussi, pour ce dernier culte de l'année, voici la question que je nous laisse. Qu'est-ce que tu veux semer dans ta vie? Quelle semence tu sèmes? Quel bilan Christ dressera de ta vie? Qu'est-ce qui restera de ton œuvre sous le soleil? Ne te trompe pas de réponse. Ne te trompe pas de décision. Celui qui sème par la chair moissonnera de la chair un seul résultat qu'il verra le jour, la corruption. Celui qui, dans sa foi en Jésus-Christ, aura semé chaque jour par l'Esprit, en tenant ferme, en ne relâchant pas, à coup sûr, verra de ses yeux ce pourquoi Jésus est mort à la croix, la vie éternelle auprès du Seigneur. Je prie qu'en cette fin d'année, tu fasses le choix de semer par l'Esprit. Fais attention à tes pensées. Fais attention à tes fréquentations. Fais attention à tes priorités. Fais attention à tes décisions. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Car bien des fois, comme dit l'Ecclésiaste, mieux vaut le chagrin que le rire qui nous rend frivoles, qui met dans nos vies des fois de la légèreté et qui conduit des fois à nous relâcher. Vaut mieux des fois aller dans la maison de deuil pour savoir que moi un jour aussi, voici ce qui m'attend dans un tombeau, afin que tu prennes les bonnes décisions, mettre ta vie, ta foi, ta confiance en celui qui jugera toutes choses le jour où il a sonné l'heure de la fin. C'est en Jésus seul, et ce sera le mot de la fin, c'est en Jésus seul que nous pouvons dire véritablement ce dicton. Tout est bien qui finit bien. C'est une vérité. Des fois, la sagesse populaire, elle est tout à fait bonne. Oui, elle est juste. Tout est bien, à condition que ça finisse bien. C'est bien ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Tout est bien qui finit bien. Oui. Pour bien finir, pour l'éternité, un seul chemin. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Tout est bien qui finit bien. Je vais prier. C'est vrai, Seigneur, que les fêtes de fin d'année sont un temps de réjouissance. Et nous voulons nous réjouir. Nous voulons aussi que ce soit un temps de réflexion, de prise de conscience, de repentance, de décision. Un temps où tu nous donnes de considérer la fin et l'aboutissement de nos œuvres, de nos vies. Seigneur, je prie que tous ici présents, tu nous aides par ton esprit de semer la bonne semence et de récolter la vie éternelle. Je prie que tous ici présents, Seigneur, tu nous donnes de semer la bonne semence et de récolter la vie éternelle. Tu connais la vie de chacun. Tu connais les soucis, peut-être des choses qui nous rendent nostalgiques, amers, des choses qui nous remplissent d'impatience, des choses qui entraîne chez nous de la distraction. Mais tu nous demandes de nous lever et d'agir. Ne nous relâchons pas de faire le bien, surtout envers les frères en la foi. Tu nous appelles aussi, Seigneur, à travers ce message, à nous engager pour l'Église. À nous engager pour l'Église. Servir les frères et sœurs dans la foi en s'engageant pour l'Église. Donne à tous ceux qui hésitent, qui réfléchissent, de se lever et d'être des ouvriers de ta moisson et de récolter la vie éternelle. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous attendons. Et nous prions que par ton esprit, tu nous donnes de tenir ferme dans cette attente de notre Seigneur. Les années peuvent passer. Le corps peut s'affaiblir, mais que notre foi ne relâche pas, que notre espérance ne relâche pas, parce qu'elle est certaine. Si tu moissonnes pour l'esprit, tu récolteras la vie éternelle. Tout est bien, qui finit bien en Jésus-Christ. Amen. Amen.